bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Coraline Faury, qui est ancienne CTO et créatrice de Tessa. Merci, Coraline, d'être venue jusqu'ici. Il y avait un petit bout de chemin depuis l'Angleterre, par ailleurs.
Un petit bout de chemin, oui. Et puis le métro, il ne marchait plus. C'était terrible.
Et le métro ne marchait plus. Ça n'arrive pas souvent.
C'est vrai ?
Non.
Okay. C'est pas la sensation que j'ai, mais ok, je te crois.
Eh ben merci d'avoir fait donc du coup tout ce bout de chemin.
Il y a pas de problème.
Du coup, tu as eu quelques heures pour écouter quelques épisodes de CTOs et je crois que tu en avais écouté même avant tes trajets.
Oui.
Est-ce que il y a un épisode ou plusieurs qui t'ont marqué ?
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode de Benoît Petit, cofondateur et CTO de Hublot, je crois qu'il est cofondateur.
Ouais. Oui.
Sur la sobriété numérique. C'est un sujet qui, pour moi, me parle beaucoup et est très intéressant. J'ai vraiment... C'était des chiffres que j'avais pas du tout en tête et qui sont vraiment affolants. Donc, pour moi, ça résonne beaucoup. Et même la manière dont il a évolué dans son parcours, la manière dont il était dev et... Ses valeurs personnelles m'ont affecté sa pratique professionnelle. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et c'est quelque chose que moi j'aimerais bien mettre en pratique aussi, enfin qui a un impact aussi.
Donc c'est la manière dont il s'est aligné entre le conviction personnelle et attente professionnelle. Quoi.
Ouais, et j'ai trouvé ça très courageux de sa part et pas forcément évident, surtout monter une boîte dans la sobriété numérique quand t'es dev. Pourrait se dire tiens bizarre mais en fait il a réussi à combiner les deux et je pense que je ne le connais pas personnellement mais je pense que ça doit très bien marcher donc peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément écouté l'épisode corrige-moi si j'ai pas tout ça en tête mais pour moi il a construit une boîte qui de service donc qui permet d'évaluer l'empreinte numérique l'empreinte carbone et gaz à effet de serre sur des entreprises.
Et il accompagne des DSI
sur l'amélioration,
sur des préconisations de ce qui peut être mis en place facilement, rapidement, un peu plus difficilement.
Ouais. Et sur des projets dans le long terme aussi, pour vraiment changer la manière de dev. Et donc au début de l'épisode, il donne beaucoup de chiffres qui pour moi devrait être de notoriété publique sur l'impact du numérique. Donc l'épisode a été enregistré début 2023 et il le dit très bien, c'est difficile de calculer l'impact du numérique, surtout si on prend première couche, deuxième couche, troisième couche. Mais en gros, je crois que c'était en 2019, l'impact du numérique, ça représentait 8% des consommations... des émissions de gaz à effet de serre et pas forcément des extractions de métaux précieux. Mais ça, c'était en 2019. Et je crois que les estimations de calcul disaient qu'en 2024, ça pouvait doubler. Et donc, du coup, on se rend compte qu'en doubler en 4 ans, enfin, il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, il parle de plusieurs choses. Il parle de... c'est ce que tu disais au début, ça va à plusieurs échelles, son impact à lui. Donc ça peut être, toi tu donnais l'exemple, je crois, dans le podcast, de regarder l'optimisation du code, la performance du code, si tu as une boucle qui tourne pour rien, par exemple, ou des choses comme ça.
Lui, ce qu'il m'avait dit, ce dont je me rappelle aussi, c'est... On parle souvent de les mails, effacez vos mails, voilà. Mais en fait, un des gros conseils rapidement, c'est... Et en fait, le renouvellement de nouveaux machines, en fait, pourquoi... Si tu renouvelles tous les 4 ans au lieu de tous les 3 ans, en fait, l'impact, il est énorme, quoi. Donc, c'est plein de... un épisode avec plein de conseils de cet ordre-là. Et pour ceux qui aiment bien la thématique, les as peut-être pas écoutés tous, mais j'ai enregistré avec Gaël Duez, qui a fait également sa transformation... et qui aujourd'hui coach et qui aide les DSI vers des transitions à plus de sobriété numérique. Un épisode avec Clément Pellegrini Carnot, qui a un produit assez sympa. Ils font chauffer des radiateurs avec des calculs déportés Ils font faire les calculs que des boîtes doivent faire, et ben en fait ils les déportent sur des cartes mères qui sont dans des radiateurs, dans des immeubles et autres.
Mais c'est
génial. Et donc du coup, ben, au lieu de chauffer des data centers.
Mais non.
Voilà. Donc, non, c'est un épisode chouette aussi.
Ah,
c'est...
ah oui, bah je vais carrément l'ajouter à ma liste. Ouais, effectivement, non, t'as raison. L'interface utilisateur, le produit qu'on a entre les mains. Et en fait, moi, j'avais une. Donc, c'est un truc intéressant parce que je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était vraiment les smartphones, qui étaient le fait d'être amené à changer ton smartphone tous les ans, qui avait un vrai impact. Mais vu que les métaux précieux et en fait, l'impact, c'est dans la fabrication. Quand on prend le cycle de vie, ce n'est pas vraiment dans l'utilisation, c'est dans la fabrication, comment on fait pour fabriquer l'outil qu'on va utiliser. Et donc, moi, c'est pour ça que je perds beaucoup mes téléphones aussi. Donc, c'est quelque chose... je me sentais vraiment coupable. Et en fait, c'est ma sœur qui m'a fait remarquer ça. Les télés, c'est encore pire que le smartphone, parce que bah, quand tu mets ton smartphone, il y a combien de smartphones dans l'écran d'une télé ? Donc c'est vraiment la taille de l'écran qui compte. C'est pas forcément le produit en lui-même, le nombre de produits qu'on consomme, c'est vraiment la taille de l'écran. Et je trouvais ça très intéressant comme manière de voir les choses. Donc voilà, arrêtez d'acheter des très très grandes télés. C'est bien, mais c'est pas bien. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres épisodes qui t'ont marqué ?
Oui, bah moi j'ai bien aimé, je me souviens plus de son nom de famille, de Marie Terrier, qui a fait son parcours et son début de parcours en Inde et qui parle donc pas mal de la raison pour laquelle elle s'est expatriée. Donc en tant qu'expat,
ça devait te parler toi aussi.
Ouais, et bah alors pas la même différence de culture, je pense que c'est quand même plus compliqué d'aller en Inde que d'aller à Londres. Je l'ai pas fait, hein, mais a priori et vraiment. Aussi d'un point de vue relationnel, de jongler avec les différentes cultures et de... donc elle parlait au début de l'épisode de choses qu'elle faisait, par exemple, quand elle est arrivée et qu'elle posait plein... Donc je crois dans mes souvenirs qu'elle s'est fait recruter en étant peut-être plus senior que ce qu'elle n'était en réalité. Et donc elle a dû vraiment apprendre pas mal de choses techniques sur le tas. Et donc du coup, elle posait énormément de questions. Je me souviens, elle avait fait le commentaire là-dessus, elle posait énormément de questions à son manager qui lui était bah, indien. Et en fait, il le prenait vraiment très très mal et ça se passait très très mal avec lui parce qu'il prenait ça comme, en gros, elle me pose des questions, ça veut dire que ce que
elle
je fais...
Elle me remet en question.
Voilà, ouais. C'est ça. Ce que je fais, c'est nul et elle est en train de me dire que je devrais faire les choses autrement. Alors que c'est vraiment une culture française de questionner tout ce qu'on a en face de nous, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et de remettre tout un... Parfois, ça peut être relou, d'ailleurs. Mais ouais, elle avait dit. Et donc, à partir du moment où elle avait compris ça, où elle avait compris que c'était juste un problème de culture et pas du tout un problème de fond, bah, elle n'avait plus adapté sa manière d'interagir avec les gens. J'ai trouvé ça très intéressant.
Ouais, c'est un épisode où, si vous avez envie de voyager et de se rendre compte ce que c'est que de bosser en Inde, y a 2-3 anecdotes et 2-3 trucs sympas.
Ouais. Et dans cet épisode-là, il y avait une autre petite chose. Ça peut être un détail, mais c'est quelque chose qui, moi, m'avait parlé. Au moment de construire, donc de fonder la boîte dans laquelle elle était CTO, on lui avait offert 2 possibilités, d'être employée numéro 1 ou d'être cofondatrice, de prendre des parts et d'être cofondatrice. Je ne sais plus exactement le détail du pourquoi et du comment, mais elle avait choisi d'être employée numéro 1 et pas de faire partie de
l'actionnariat.
Et en fait, j'ai trouvé ça très cool qu'elle en parle aussi ouvertement parce que j'ai un peu l'impression, c'est peut-être à Londres, je ne sais pas, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a une valorisation de l'entrepreneuriat, qu'il faut absolument construire sa boîte, choses comme ça. Et pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. Et je trouve ça totalement ok
de dire non, j'y vais pas en mode
de dire c'est pas moi, j'ai ma valeur ajoutée, elle est ailleurs.
Ouais, je me rappelle, je lui demandais parce qu'elle y reste 5 ans, et puis au bout de 5 ans, tu peux te dire merde, le choix que j'ai fait il y a 5 ans, est-ce que je le regrette ? Bah non, elle avait l'air très à l'aise avec, avec le choix dans la durée, quoi.
Ouais. Et j'ai trouvé ça super d'entendre ça, de démocratiser ce genre de décision. Voilà.
Et ben...
C'est ce qui me reste.
Eh bien, ça marche. Merci pour ces petits feedbacks qui, j'espère, donneront envie d'aller cliquer sur les liens qu'on mettra en description.
Je recommande les deux.
Merci à toi.
Pas de problème.